Hello, hello, bienvenue dans Occupe ton EHPAD, la nouvelle émission du collectif Occupe ton Ergo. Je suis Florine Levionnois, j'ai travaillé 5 ans en EHPAD et aujourd'hui je suis formatrice en IFE. Avec l'émission Occupe ton EHPAD, je souhaite offrir un espace d'échange autour de l'accompagnement des occupations des résidents, c'est-à-dire les activités quotidiennes qui ont du sens pour eux. À chaque épisode, un ergothérapeute de terrain te partagera son expérience et les petites actions simples qui pourraient être mises en place pour développer sa pratique en EHPAD autour des occupations. Bonne écoute! Dans cet épisode, nous accueillons Charline Legendre. Ergothérapeute depuis 2019, Charline a eu plusieurs expériences professionnelles comme la rééducation adulte ou le travail en MDPH avant d'exercer en EHPAD. Pendant un an et demi, elle a travaillé à temps plein dans un EHPAD de 310 lits, ainsi qu'en SSR, en collaboration avec une autre ergothérapeute. Durant cette expérience, Charline s'est vue confrontée aux difficultés à mettre en place une pratique de l'ergothérapie répondant à sa représentation de la profession pour laquelle elle avait été formée. Aujourd'hui, Charline nous partage son vécu de l'ergothérapie en EHPAD, les actions qu'elle a pu mettre en place pour faire évoluer sa pratique, mais aussi les freins qu'elle a rencontrés. Bonjour Charline, bienvenue sur Occupe ton EHPAD. Merci de venir pour cet épisode où on va donc parler un petit peu de la place de l'ergothérapeute en EHPAD et comment mettre en place une pratique de l'ergothérapie qui nous convient.
Bonjour Florine, merci de m'accueillir dans le podcast.
Alors du coup, ma première question pour toi Charline, ça serait quelles sont les difficultés que tu as rencontrées quand tu as voulu mettre en place une pratique de l'ergothérapie telle que tu te la concevais, pour laquelle tu avais été formée et qui te procure satisfaction?
La première difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'il y avait déjà des ergothérapeutes qui exerçaient dans cette structure avant moi et que du coup, il y avait déjà une représentation de la part de mes collègues, de la part des patients, de la part de la direction, de ce que devait être le rôle de l'ergothérapeute. Et c'était quand même assez centré sur la gestion du matériel, des fauteuils roulants, des réglages, et puis superviser un peu le parc d'aide technique, alors que ça ne correspondait pas forcément à la vision complète de ce que j'avais de mon rôle en EHPAD. J'avais envie de faire plus d'intervention, de rééducation, de vraiment développer et maintenir l'autonomie de la personne, mais dans toutes les activités du quotidien, pas seulement d'optimiser son installation. Donc ça, c'était la première limite parce que voilà, il y avait déjà des habitudes institutionnelles en fait par rapport au rôle de l'ergo. Et puis la deuxième chose, c'est que il y avait environ 310 lits pour un poste temps plein, avec un UHR et des PASA sur lesquels je devais intervenir également, ce qui était très intéressant. Mais du coup, j'avais le sentiment de manquer de temps pour pouvoir répondre à tous les besoins d'installation qui étaient un peu prioritaires et qui étaient vraiment valorisés par l'institution, et trouver du temps pour mettre à côté en place d'autres projets ou des séances de rééducation.
D'accord. Et ces difficultés-là, par rapport au début où tu as pris ton poste, elles sont arrivées de suite ou tu t'en es rendu compte au fur et à mesure?
Je pense qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais un peu naïve et je m'étais dit « Oh, bah, les autres ergots n'étaient peut-être pas très intéressés par la rééducation. Moi, je vais changer les choses, je vais le prioriser et je vais trouver du temps et trouver des moyens pour le mettre en place. » Et finalement, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que bah, il y avait déjà énormément de demandes sur l'installation, sur la gestion du matériel, que c'était chronophage, que c'était nécessaire et que c'était peut-être pas en fait un manque d'intérêt de la part des autres ergothérapeutes, mais qu'elles faisaient face aux mêmes difficultés que moi.
D'accord, ok. Donc, c'est-à-dire que le temps limité dont tu parles, il était finalement consacré à ces missions-là qui sont quand même ergo, mais qui ne laissaient pas de temps aux autres missions qui sont très importantes aussi en ergothérapie.
Oui, c'est ça. C'est le sentiment que j'avais.
Et du coup, si on part du principe qu'il y a une partie des difficultés qui est en lien avec le temps limité par rapport au nombre de résidents, est-ce que tu as essayé de mettre en place des choses pour optimiser ton temps, te dégager du temps, en tout cas pour essayer de contrecarrer cette problématique de temps?
Oui, tout à fait. Au début, j'ai essayé d'argumenter auprès de ma direction qu'on avait besoin d'être plus d'ergothérapeutes pour pouvoir exercer dans de meilleures conditions et qui aurait des impacts positifs sur la qualité de vie des résidents et sur la qualité de prise en soins dans l'établissement. Mais je me suis assez rapidement retrouvée face à des murs où on m'expliquait qu'il n'y avait pas le budget pour et que ce ne serait pas possible. Ensuite, bah, pendant plusieurs mois, je pense que je me suis pas mal remise en question, que je me suis dit que c'était mon organisation qui péchait peut-être et qui pouvait être optimisée pour réussir à tout concilier entre les demandes de l'institution et ce que moi j'avais envie de mettre en place comme ergothérapie. Donc effectivement, j'ai pu optimiser un petit peu mon organisation et puis au bout d'un moment, je pense quand on travaille dans la même structure, on gagne aussi en efficience et on peut se dégager un peu plus de temps. Donc j'ai réussi à mettre en place des suivis individuels ou des groupes de couture, des groupes de cuisine, mais j'avais quand même l'impression d'être tout le temps dans la course et d'avoir une liste de choses à faire super impressionnante en début de journée. Et c'est vrai que j'avais aussi le sentiment de... Maintenant, avec le recul, je me rends compte que je me culpabilisais pas mal de me dire tu pourrais faire plus, tu pourrais te donner encore un peu plus pour pouvoir mettre plus de projets en place et pouvoir proposer des meilleures qualités de soins et d'accompagnement aux résidents. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était un peu envahissant cette culpabilité. Et maintenant que j'ai quitté mon poste, avec le recul, je l'en prends conscience.
Et ce côté un petit peu manque de temps, temps consacré à la gestion du matériel, est-ce que c'est quelque chose que pour lesquels tu avais déjà été confronté dans tes stages ou dans des autres postes et sur lesquels tu avais vu des actions qui pourraient permettre de t'aider?
Je pense qu'il y a beaucoup d'établissements où effectivement on manque un peu de temps et on a beaucoup de missions et envie de faire plein de choses différentes. C'est la réalité de notre métier d'ergo. Donc c'est quelque chose que j'avais aussi un peu ressenti dans mes autres postes de me dire que j'avais envie de faire plus. Mais c'était jamais aussi prégnant que mon expérience en EHPAD où là je pense que j'étais aussi témoin de conditions d'accueil des résidents qui étaient parfois difficiles. Et parfois de maltraitance institutionnelle. Et je crois que quelque part, j'avais envie de compenser ça, alors que ce n'est pas mon rôle en tant qu'ergothérapeute. Hein. Mais on n'est pas devenu soignant par hasard. Et quand on est témoin de personnes qui ont des conditions de vie difficiles, forcément, on a envie de pouvoir répondre à leurs besoins et de compenser à notre niveau. Mais il faut aussi faire attention à soi et pas prendre le risque de s'essouffler, quoi.
Ouais. Et par rapport à ton organisation, au fait que tu optimisais ton temps, est-ce que, parce que ça, je sais que c'est quelque chose que les ergos rencontrent beaucoup, de faire du groupe en majorité plutôt que de l'individuel, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait et de quelle manière tu l'as fait? Est-ce que c'était à contre-cœur pour faire au mieux? Est-ce que tu en as trouvé des bénéfices? Est-ce que voilà, comment tu le vois ce côté individuel versus de groupe et comment tu l'as géré toi?
Effectivement, au départ, quand on a mis en place les groupes, alors c'était aussi en collaboration avec mon collègue ergo. On était donc deux ergothérapeutes dans la même structure, un qui était sur l'EHPAD et un qui était sur le SSR, et puis tous les 4 mois on alternait. Donc pour tous les projets assez généraux sur l'EHPAD ou sur le SSR, eh ben, on se consultait et on travaillait ensemble puisque c'était un peu nos deux postes à tous les deux. Et donc quand on a commencé à mettre en place ces groupes, c'est vrai qu'il y avait cette idée de pouvoir intervenir auprès de plus de patients sur le même temps dans la semaine. Mais on arrivait aussi à se dégager du temps pour faire des séances individuelles pour les personnes qui en avaient besoin. Donc on s'est pas senti, en tout cas moi je me suis pas sentie limitée de ce point de vue-là et j'ai pas eu le sentiment de devoir faire des concessions. C'était aussi intéressant de travailler en groupe et ça apportait aussi des avantages. Après, c'est vrai qu'on s'est aussi retrouvé dans une situation où on manquait de temps et on manquait aussi, à notre sens en tout cas, de moyens pour intervenir. Et donc, j'ai mis en place de l'ergothérapie communautaire dans l'EHPAD pour pouvoir un peu répondre à ces deux besoins de manque de temps et de manque de moyens. C'est-à-dire que, par exemple, à l'UHR, j'avais envie de mettre en place du manger-main. On avait énormément de patients avec de gros troubles cognitifs et qui avaient des besoins de important, qu'il y avait pas mal de dénutrition et que les repas étaient très compliqués parce que voilà, ils déambulaient, ils voulaient manger avec les mains, mais les aliments n'étaient pas adaptés. Et comme la structure ne nous permettait pas de mettre en place du manger-main avec un cuisinier formé, avec voilà, ben on a mis en place un groupe de cuisine avec d'autres résidents de l'EHPAD qui avaient moins de difficultés. Le groupe de cuisine, ça permettait de stimuler les compétences sociales et cognitives et puis physiques aussi de ces résidents d'EHPAD. Et en même temps, les recettes qu'on réalisait, c'était du manger-main qu'on apportait ensuite à l'UHR. Donc, ça nous permettait à la fois de faire de la rééducation et à la fois de compenser un besoin, c'est pas matériel, mais voilà, un moyen qu'on n'avait pas.
C'est une forme d'économie circulaire, du coup.
Exactement.
Ok. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que la plupart du temps, j'entends les ergots plutôt, et puis moi-même, je l'ai vécu personnellement, de me dire, et d'avoir cette demande aussi institutionnelle dans les habitudes institutionnelles que tu disais, de faire du groupe pour pouvoir toucher plus de monde aussi en termes de, bah, faut accompagner les gens qui sont là. Il y a cette culpabilité derrière de ne pas pouvoir accompagner tout le monde. Mais moi, j'avais cette impression que c'était moins impactant et moins efficace parce que je ne pouvais pas être sur les activités de la vie quotidienne des personnes. Mais finalement, tel que toi, tu le décris à travers la pratique communautaire, finalement, tu leur créais comme une activité de la vie quotidienne parce que ça avait du sens dans l'établissement. Et dans la communauté, du coup, ça enlevait un peu ce biais de la passivité de il faut que je sois là pour que ça se passe, que le groupe se forme, que l'activité se passe, mais du fait du sens, finalement, ça s'enlevait. Est-ce que tu vois que tu aurais pu, si tu avais eu voilà, les moyens possibles, tu aurais pu développer davantage cet aspect communautaire, ça aurait pu être une solution enfin, ça pourrait être une solution dans les EHPAD que les résidents participent davantage à la vie de l'EHPAD pour pouvoir faire dégager du temps au niveau des soignants.
Eh ben, c'est vrai qu'on a mis plusieurs projets en place. Donc, il y avait cette idée de manger main avec l'UHR. Et comme tu dis, ça donne un rôle à la personne et ça les valorisait aussi énormément. Au début, j'étais un peu gênée de proposer à des gens parce que j'avais peur qu'ils se sentent utilisés ou qu'ils se sentent en train de compenser une défaillance de l'institution. Alors que c'était pas le cas, il y avait aussi des objectifs de rééducation pour eux. Et finalement, c'est pas du tout quelque chose qu'on a eu comme retour. Les personnes, donc les résidents qui ont participé aux différents projets d'ergothérapie communautaire, étaient trop contents de pouvoir être utiles. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais vous savez, moi, depuis que je suis à la retraite, je me sens complètement inutile. J'ai l'impression d'être un poids pour mes proches, pour les aides-soignantes. Et elles me disaient, bah là, pour une fois, c'est moi qui viens en aide et il y a un retour. Voilà, on retrouve une symétrie et que ça leur faisait vraiment plaisir.
Donc, c'est une des premières réponses pour permettre de mettre en place une pratique un peu plus optimisée dans les contraintes dans lesquelles on évolue. Ouais.
Après, on aurait aimé que certaines idées de projet émanent des résidents eux-mêmes. On a essayé de leur poser la question de quelles sont vos ressources, quelles sont vos forces, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour participer à la vie de l'établissement. Mais là, on a ressenti que c'était plus compliqué pour eux de pouvoir identifier des idées de projet, de mission. Donc, à chaque fois, c'était plutôt nous qui étions force de proposition du projet couture, du projet cuisine. Mmh. Et ensuite, on essayait de les impliquer au maximum pour qu'ils puissent avoir un pouvoir de décision.
Ça, je pense que ça fait écho aux fameuses habitudes institutionnelles. C'est que dans les institutions, on subit tous son fonctionnement et les résidents, ils ont l'habitude d'être passifs. Et quand tu leur redonnes le pouvoir d'agir brutalement, bah, en fait, il y a un peu une zone de bah, « je sais plus, je sais pas ». Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, par rapport à ces habitudes institutionnelles qui pouvaient un petit peu rendre difficile la mise en place d'une pratique telle que tu l'aurais voulu, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as essayé de mettre en place pour pouvoir changer ces habitudes-là?
Quand je suis arrivée, je travaillais donc avec une autre ergothérapeute qui était déjà sur l'établissement depuis 3 ans. Et on avait toutes les deux vraiment cette volonté de mettre en place l'ergothérapie comme on l'entendait. On avait la même vision des choses. Et donc, on s'est attelé à différents projets pour essayer de voilà, faire mieux identifier le rôle de l'ergothérapeute et peut-être ouvrir un petit peu le champ des possibles par rapport à l'équipe médicale et la direction qui étaient du coup nos prescripteurs. Et la première chose qu'on a essayé de faire, c'était qu'on est parti du principe qu'ils ne connaissaient pas les différentes possibilités de notre métier et les différentes missions qu'on pouvait avoir. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse plus d'informations à ce niveau-là. Et on a créé des petites plaquettes qui résumaient un peu les différentes missions que l'ergothérapeute pouvait avoir en EHPAD. Pour ça, on s'est basé sur les fiches de poste qui sont, par exemple, sur le site de la FEJ. Et puis, on a essayé de mettre des exemples concrets parce qu'on voulait que ce soit simple à lire, à comprendre et que quand ils ont envie de nous prescrire ou quand ils rencontrent une situation pour laquelle ils n'ont pas de solution, qu'ils puissent regarder cette affiche-là et se dire « Ah bah oui, en fait, je vais pouvoir solliciter peut-être l'ergothérapeute pour faire une évaluation, pour faire de la rééducation. Donc, on a créé de magnifiques affiches qu'on a fait lire par différents collègues de différentes professions pour être sûr qu'elles soient faciles à comprendre. Et on les a données dans toutes les salles de soins de l'établissement et à tous les médecins. Et on n'a vu absolument aucun changement parce que très rapidement, on s'est rendu compte que ces fiches étaient jetées ou qu'elles n'étaient pas lues. Donc,
ah oui, tu n'as vu même aucune répercussion positive, même pour ceux à qui directement, finalement, tu as été faire lire.
On a vu qu'il y avait quelques aides-soignantes et infirmières qui nous ont posé des questions sur les affiches en disant, bah là, par exemple, il y a écrit que vous pouvez travailler l'autonomie à la toilette, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ou vous parlez de mise en situation, c'est-à-dire, et du coup, ça a été quand même un support d'échange. Dans notre pratique, on n'a pas vu plus d'orientation de patients pour des problématiques qui n'étaient pas de l'ordre du matériel ou de l'installation.
D'accord.
Après, on était quand même contente d'avoir essayé, mais ensuite, du coup, ça a fait... On a poursuivi notre réflexion et on s'est dit, bon, ils ne viennent pas lire une petite affiche qu'on fait, ce qu'il faudrait qu'on leur montre, c'est vraiment notre pratique. Et donc, on s'est posé la question de notre environnement de travail. On avait une salle d'ergothérapie, mais qui était très encombrée par beaucoup de matériel. On avait des coussins de positionnement, des tapis de matelas anti-chute, enfin voilà. Et on s'est dit, c'est vrai que si des professionnels venaient dans nos pièces, si elle est censée représenter nos différentes missions, pour l'instant, on n'y est pas. Donc, on a passé pas mal de semaines à essayer de dégager de la place dans les autres réserves de matériel qu'on avait pour pouvoir évacuer finalement tout le matériel de positionnement qui était stocké dans la salle d'ergothérapie. Et ensuite, on a essayé de vraiment façonner une salle d'ergothérapie qui ressemble le plus possible à un appartement thérapeutique. Donc, on a créé une sorte d'espace salle de bain, une sorte d'espace cuisine, salle à manger. On a pris pas mal de matériel de récupération. On avait une machine à laver en carton qui s'ouvrait sur le dessus et sur le devant. Voilà, encore une fois, on avait des contraintes budgétaires importantes. Donc on a fait avec ce qu'on pouvait. Mais déjà, le fait de sortir toutes les choses qui étaient liées au positionnement de la salle et de vraiment essayer de créer un espace cocooning, c'était pas mal. Ça a aussi été un projet d'ergothérapie communautaire qu'on a proposé. C'était de faire des peintures ou de la mosaïque ou des choses comme ça pour décorer la salle d'ergothérapie. Et ça, il y a des patients qui ont adoré, qui étaient trop investis. Et on les a entendus se vanter en quelque sorte en disant « Ah oui, t'as vu la peinture au-dessus de la porte de la salle d'ergothérapie, c'est moi qui l'ai fait. » C'était génial de voilà, pouvoir créer un espace un peu plus...
D'approprier son environnement.
Exactement.
Ouais.
Et ensuite, on avait dans l'idée du coup de pouvoir faire venir plus de nos collègues et l'équipe médicale dans cette salle pour essayer d'expliquer... En faisant des mises en situation, en quelque sorte, expliquer les différentes missions de l'ergothérapie, les objectifs qu'on pouvait avoir et qu'on n'était pour l'instant peut-être pas prescrit à bon escient.
C'est super intéressant ce que tu dis parce que nous, en tant qu'ergothérapeute, dans notre démarche, c'est vrai qu'on est attentif à l'environnement de nos patients puisque c'est ce qu'on peut appeler l'environnement occupationnel et ce qui est dans leur environnement physique. Finalement, c'est ce avec quoi ils vont faire des occupations et ça va nous en dire beaucoup. Et c'est vrai qu'on pourrait le projeter sur notre profession. Moi, j'avais jamais pensé. J'ai jamais pensé. En plus, j'avais une salle commune, moi, en EHPAD avec les kinés. Donc, je pouvais pas sortir le matériel, mais ça m'était jamais venu à l'idée que s'ils venaient me voir dans l'endroit où je travaillais, en effet, ce qui était autour de moi allait créer de façon finalement inconsciente une représentation de ce qu'on fait. Et du coup, ça serait intéressant d'avoir un guide de, comme tu disais, quel matériel va refléter quelle mission, qu'est-ce qui peut nous aider à refléter au mieux nos missions. Et ça commence par ce que tu as dit, un espèce d'appartement thérapeutique où tu vois en fait intervenir le quotidien, les activités de la vie quotidienne des personnes qui peuvent toucher un peu tout le monde, la salle de bain, la cuisine, etc. Et peut-être une petite partie loisirs un peu plus diversifié et en plus d'intégrer les résidents dans cette appropriation. Ça, c'est super chouette. C'est encore un moyen, entre guillemets, t'as commencé crescendo finalement, sur des moyens où d'abord, ils ont quelque chose à lire, après ils ont quelque chose à voir. Et donc là, tu disais, on a essayé de faire venir les collègues. Et je suis curieuse de savoir du coup, comment on peut faire pour faire venir les collègues et qu'ils voient en fait ce qui se passe en ergothérapie. Qu'est-ce que tu as essayé et avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changées et des choses que tu aurais rajoutées?
Alors, déjà, on a communiqué sur ce changement qu'on avait fait dans la salle auprès de l'équipe de rééducation. Et donc, eux, ils sont venus assez facilement dans la salle quand on leur a dit qu'on avait fait des changements. Et puis, de toute façon, ils nous avaient vu transporter toutes les boîtes de coussins à air et tout ça. Donc, ils se demandaient ce qui se tramait. Et je ne dirais pas que le changement a été immédiat pour eux, mais j'ai quand même vraiment senti que ça leur permettait de recentrer un petit peu la place que l'ergothérapeute pouvait avoir et de se rendre compte qu'effectivement, on était peut-être beaucoup sollicité pour les installations parce que les habitudes étaient comme ça et que ben, même nous, hein, on peut très rapidement avoir une vision un petit peu étriquée de ce que peut être le métier de kinésithérapeute, par exemple, ou d'APA. Et là, ça permettait de rouvrir un petit peu leur champ des possibles. Et petit à petit, on a pu avoir ben, plus de collègues qui nous ont dit, ah bah, ben, par exemple, Madame Machin, elle a du mal à lever son bras. Ben, en fait, peut-être que ce serait qu'elle vienne dans la salle pour travailler sur le fil à linge que vous avez installé. Et donc, ça nous permettait de faire du lien et ensuite de pouvoir solliciter les médecins à bon escient. Parce que, en fait, quand on était un temps plein pour 300 résidents, c'était difficile de tous les connaître et de savoir quelle prise en soins on pouvait mettre en place. Donc, on avait aussi besoin que l'équipe autour de nous puisse, eux, faire cette identification-là, nous le rapporter ou le rapporter au médecin pour qu'on puisse être prescrit dans ce sens-là. Après, on a essayé d'inviter la direction et l'équipe médicale à venir dans la salle pour voilà, pour se rendre compte des changements qui avaient eu lieu. Ça n'a pas forcément marché. Sur quatre médecins, il y en a un qui est venu suite à notre sollicitation et il nous a dit qu'il avait beaucoup d'estime pour l'ergonomie et on s'est dit, bon, on n'y est pas encore. Et il y a un deuxième médecin qui est venu dans la salle, mais pas pour répondre à l'invitation parce qu'il avait été interpellé par une de mes transmissions dans le dossier médical d'un patient où je parlais de mise en situation qui avait été réalisée et je parlais notamment de mise en situation d'activité affective et sexuelle. Et en fait, là, il s'était dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, il a débarqué dans la salle d'ergothérapie et m'a dit, oui, qu'est-ce que vous avez fait avec ce patient lombalgique? Je ne comprends pas. L'ergo, c'est pour l'installation ou pour les repas. Et donc, j'avais pu reprendre avec lui, voilà, qu'en ergothérapie, on travaille toutes les occupations, que ce patient-là avait des problématiques de douleur au niveau du dos lors de certaines activités sexuelles et qu'on avait pu faire des mises en situation habillées. Je l'avais rassuré que non, j'avais pas de rapport avec mes patients. Et c'est là qu'il m'avait dit, mais en fait, depuis tout à l'heure, vous dites mise en situation, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Et là, je m'étais rendu compte que le médecin avec qui on travaillait qui travaillait là depuis des années, ne savait pas ce que c'était qu'une mise en situation, que ça faisait pas sens pour lui. Et je me suis dit, ben, nous, ça fait partie de notre langage courant en tant qu'ergothérapeute, mais en fait, il a pas compris ce qu'on mettait derrière ça. Donc bon, on avait pu repartir sur ces bases-là, et je pense que ça avait fait avancer notre collaboration. Mais les autres médecins ne sont pas venus. Et maintenant, avec le recul, je me dis que c'était quand même intéressant de les faire venir sur notre milieu de travail pour pouvoir, voilà, repartir du vocabulaire de base et qu'on soit d'accord, qu'on se comprenne bien, qu'on communique bien sur les choses et sur les situations. Je pense qu'on aurait dû s'appuyer un peu plus sur la direction en faisant remonter peut-être plus clairement le fait qu'on ne se sentait pas bien identifié, qu'on se sentait j'allais dire utilisé, mais ce n'est pas forcément le bon terme, sous-sollicité sur certains aspects, et qu'on a envie d'essayer de mettre en place des projets et qu'on avait besoin peut-être de leur coup de pouce pour voilà, que, par exemple, les médecins viennent vraiment voir la salle d'ergothérapie. Il y en avait pour 5 minutes. Je pense qu'on aurait dû plus clairement exprimer notre mal-être ou nos demandes à ce point-là, enfin à ce niveau-là.
De ne pas hésiter de provoquer ça dès le début et de les inclure directement finalement dans la démarche de changement. Après, je trouve que c'est toujours qui tout double en fait. C'est soit si tu les inclus dès le départ, bah, en effet, ça peut être un soutien précieux, puisque moi, les projets qui ont. En tout cas, les projets sur la structure qui avaient marché, c'était quand j'avais le soutien du médecin coordonnateur ou de la direction. Mais tu as le risque aussi qu'ils te freinent dès le début, alors que si tu essayes déjà par toi-même, eh ben, ça porte ses fruits. Et ça aussi, je l'ai vécu, d'essayer de mettre en place du suivi individuel, alors que ce n'est pas forcément ce qui était apprécié par la direction. Et c'est qu'en voyant, en fait, après les effets, que ça a pu être toléré, entre guillemets. Donc, c'est vrai que je trouve que ça, on n'est pas trop préparé à ça, voilà, comment faire avec la direction, quand les solliciter, comment s'y prendre, comment argumenter. C'est pas quelque chose qui est facile. Et je pensais à ton changement d'environnement de salle. Pour ça, typiquement, enfin, c'est des choses qui peuvent être vues avec la direction. Et tu parlais du manque de moyens. Il y a des appels à projets qui existent aussi pour pouvoir changer des environnements, mettre en place un peu de l'innovation, parce que ça reste quand même innovant de mettre en place toute une salle qui est une salle de rééducation, réadaptation, mais où tu n'en as pas l'impression, quoi. Mais le problème, c'est toujours le temps et l'investissement et les compétences aussi derrière tout ça. D'où l'intérêt d'être soutenu hiérarchiquement, quoi.
Puis il faut déjà avoir un espace, parce que là on avait la chance d'avoir une salle d'ergothérapie, mais c'est pas le cas dans tous les EHPAD. Et bon, cette salle, elle était encombrée parce qu'on avait beaucoup de matériel et que les rangements dans les salles de stockage n'étaient pas forcément optimisés, mais on avait déjà quand même cette base. Il y a des EHPAD qui partent d'encore plus loin où il faut déjà expliquer pourquoi on a besoin d'un lieu pour faire des séances de rééducation. Et tout ça, c'est chronophage et ça demande beaucoup d'énergie. Je crois qu'il ne faut pas trop culpabiliser aussi en tant qu'ergot quand on n'arrive pas à mettre en place les changements ou quand on n'y arrive pas aussi vite que ce qu'on voudrait.
Ouais. Est-ce que, parce que justement, tous ces changements dont tu parles, le flyer, les tentatives de communication avec les collègues, l'ergothérapie communautaire, le changement d'environnement, c'est des choses que tu as fait vite enchaîner et fait parfois en simultané?
Ouais, je dirais que la première grande étape, c'était le flyer, et puis ensuite, il y a eu le changement au niveau de la salle de rééducation. Mais en même temps que ces deux projets-là, on a commencé à mettre en place, voilà, les suivis individuels, alors qu'il n'y en avait peut-être pas beaucoup à l'époque. On a essayé de faire plus de transmissions dans les dossiers de patients avec, voilà, essayer de mettre en avant ce qu'on faisait d'un point de vue de travail, de l'autonomie et de l'indépendance. Et puis, voilà, en parallèle de ça, essayer de plus échanger aussi avec les équipes, que ce soit de la rééducation ou les équipes soignantes, donc les infirmières, les aides-soignantes, pour que nos possibilités de réponse à des situations problématiques puissent être mieux identifiées.
Ouais, donc c'est prendre en fait le nœud du problème par différents endroits et essayer de tirer toutes les ficelles possibles. Et c'est là où, comme tu disais, ça demande beaucoup d'énergie. Et en fait, comme ça ne marche pas direct, ça peut aussi, je pense, foutre un coup un petit peu au moral si les choses n'avancent pas telles qu'on se l'était espéré. Donc peut-être de voir si est-ce que il faut faire les choses une à une. Est-ce qu'il faut tout changer d'un coup? Et ça me fait penser aussi à quand tu disais tout à l'heure que tu as mis quelques mois, tu t'es rendu compte qu'en fait, oui, c'était vraiment comme ça que ce que tu avais repéré au début sur le positionnement, sur les aides techniques, etc., ça se passait vraiment comme ça et que tu l'as vraiment pris conscience. Comme conseil, est-ce que tu penses que ça serait un conseil pertinent de dire à ceux qui arrivent dans un poste en EHPAD de se renseigner sur cette fameuse représentation que les types de professionnels peuvent avoir, de lister un peu ce qu'ils entendent dans que faisait l'ergot, quel était son rôle, et peut-être pas du coup de... Je sais pas, je me dis, ça pourrait être de pas commencer à le faire et après de dire comment je vais rétro-pédaler et peut-être choisir en fait les choses sur lesquelles tu dis directement voilà, ça fait peut-être pas partie de mon rôle et d'argumenter. Parce que est-ce que si tu reprends les anciennes habitudes, parce qu'on l'a tous fait, hein, est-ce que du coup c'est pas en ta défaveur, est-ce qu'il faudrait pas commencer par lister les représentations et en fait justement pouvoir travailler une à une dessus quoi.
Bah oui, ça peut être une bonne idée. Après, c'est pas seulement changer des représentations, c'est changer aussi des attentes, parce qu'il y a certains établissements où on dit clairement, j'ai pas envie que vous fassiez des suivis individuels, c'est pas sur ça qu'on vous attend, c'est sur tel ou tel problématique. Nous, je sais que dans l'établissement, il y a un moment où on avait mis tous ces projets en place et on avait l'impression d'avoir avancé dans l'ergothérapie. On se disait même, on fait de l'ergothérapie communautaire, c'est dingue. Et ensuite, on nous a demandé d'être responsable du nettoyage de tous les fauteuils roulants de l'établissement. Donc, à 310 chambres, on avait plus de 200 fauteuils roulants. Et on a dit qu'en fait, si c'était à nous de les nettoyer, on n'avait plus du tout de temps pour faire ni des groupes, ni des prises en soins individuelles, mais même pas tellement pour les installations. Et donc, parfois, c'est dur aussi de voir que l'impression de retourner en arrière et que tes efforts n'ont pas trop payé. Tout à l'heure, on réfléchissait, tu sais, quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui arrive. Je crois qu'il faut aussi accepter que cette progression vers l'ergothérapie qu'on attend, elle n'est pas forcément linéaire, qu'il y a des moments où on va bien réussir, il y a des moments où on va avoir de l'énergie pour ça, on va pouvoir se dégager du temps pour ça. Il y a des moments moins et qu'il ne faut pas se mettre trop de pression là-dessus non plus. Il ne faut pas se mettre des attentes de gros changements sur du court terme. Il faut essayer de voir peut-être au plus long cours. Alors, c'est facile à dire maintenant que je travaille plus en EHPAD et que j'ai plus cette pression-là. Mais
je pense que de se le dire, ça aide à rester dans un état mental un peu plus favorable peut-être à la maîtrise du changement. Il y a plusieurs éléments que j'ai entendus dans tout ce que tu m'as dit et sur lesquels j'aurais voulu qu'on revienne. Tu disais donc que tu faisais venir les gens dans la salle que tu avais changée. Alors moi, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que ça aurait été intéressant pour que ça soit plus global en fait et que ça soit peut-être plus naturel, tu fais de faire une semaine des métiers, par exemple dans tous les établissements, hein, c'est pas qu'en EHPAD, où chacun, en fait, chaque jour, c'est un métier différent qui est à l'honneur et tu vas voir ce qu'il fait et il y a cette occasion de présenter ton métier et de faire, qu'un résident parle de ton métier, etc. Ça pourrait être un biais pour mieux repositionner les missions de chacun et que les personnes qui s'étaient pas forcément intéressées au départ à ce que tu fais puissent découvrir finalement, et ça peut être une opportunité parmi tant d'autres à organiser. Ça, je trouve ça chouette d'avoir fait cette initiative-là, de faire venir les gens à l'endroit où tu travailles pour présenter ce que tu fais.
C'est vrai qu'à un moment, on avait pensé à faire de la communication sur une journée un peu porte ouverte, venez découvrir la salle de l'ergothérapie, faire des mises en situation, voir si vous y connaissez en aide technique et de le diffuser auprès des patients comme des professionnels. Et je crois que quand on a eu cette idée-là, on était à un moment où, avec mon collègue, on s'épuisait un petit peu sur l'envie de se faire reconnaître et voilà, d'être mieux identifié. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en place, mais je pense que c'était une bonne idée.
Moi, je trouve ça intéressant, comme tu dis, en plus de l'ouvrir aux patients, parce que ça se trouve, le patient lui-même, il ne sait pas non plus qui on est et que là, il se dit « Ah ouais, moi, j'ai une difficulté sur ça. En fait, peut-être je pourrais aller la voir. » Ou même les proches aidants qui viennent rendre visite de temps en temps à leurs proches, que ça soit ouvert. Je trouve, ouais, journée porte ouverte, semaine des professionnels, je trouve ça super, super chouette comme concept. Il y a quelque chose à faire, en tout cas, autour de ça.
Pour les proches aidants, on avait imprimé les affiches qu'on avait fait, les espèces de flyers là, qui présentaient le métier d'ergothérapeute, et on les avait imprimés en format A3, plastifiés, et on les avait mis dans le couloir juste à côté de la salle d'ergothérapie. Et donc, on avait eu pas mal de familles qui nous avaient interrogées et qui avaient dit bah, « peut-être que pour ma maman, ce serait intéressant ». Et du coup, ça avait pu mettre en place quelques suivis, ou en tout cas des réflexions de « est-ce qu'un suivi était pertinent ou non ?»
Finalement, dans toutes les actions dont tu m'as parlé, à chaque fois, ça a quand même amené du positif, mais entre guillemets, ça n'a pas amené une révolution et un changement pérenne, quoi.
Oui, c'est ça. Ça a amené une petite pierre à l'édifice à chaque fois, mais on n'a pas eu, en tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression d'atteindre l'objectif que j'attendais. Et au bout d'un an et demi, du coup, j'ai eu le sentiment de m'essouffler et j'ai fini par quitter mon poste. Mais il y a quand même des choses qui ont changé. Et un an et demi, finalement, c'est court pour mettre en place de grands changements.
Ouais. Ah bah ouais, c'est sûr. Moi, je pense que j'ai commencé à changer au bout de 2 ans, donc commencer, hein. Et j'ai réussi à commencer à avoir une pratique qui était occupation centrée en partie, hein, parce que qu'au bout de 3 ans, oui, ça, franchement, ça prend beaucoup de temps, notamment justement par rapport à cette problématique de temps dont on a déjà parlé, par rapport au fait que les professionnels ne nous connaissent pas forcément, ou en tout cas pas pour toutes nos missions, et par rapport au manque de moyens qu'on a aussi, que tu as relevé. Et il y a une autre chose que tu as relevé aussi qui, je trouve, est intéressante, et un autre levier finalement que j'ai l'impression que tu as soulevé, mais inconsciemment, c'est les transmissions écrites. Enfin, tu disais que tu avais été interpellée par rapport aux transmissions que tu avais fait et que tu essayais vraiment de mettre les transmissions en lien avec les activités de la vie quotidienne, en lien avec l'autonomie, comme un biais de communication. Et finalement, il y a quand même des personnes qui sont venues te voir par rapport à ça. Donc, est-ce que ça, comment tu l'as mis en place? Quel effet ça a eu? Et est-ce que tu penses que ça peut être plus développé aujourd'hui dans les structures en général?
Bah, au niveau des transmissions, donc quand je suis arrivée, j'étais avec une autre ergot, une de mes collègues, et on s'était vraiment dit, vas-y, on met en place l'opération communication sur l'ergothérapie, on y va à fond. Donc on était en train de faire les plaquettes, et puis on a essayé de faire plus de transmissions où on décrivait ce qu'on faisait dans les suivis individuels. C'était un peu nouveau de mettre en place ces suivis individuels. On essayait de mettre pas forcément du vocabulaire spécifique à l'ergothérapie pour que ce soit vraiment compréhensible par tous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas parlé d'équilibre occupationnel, mais on a essayé de le traduire avec des mots plus simples, plus intelligibles pour des gens qui connaîtraient pas du tout le domaine. Et on se doutait qu'on n'était pas forcément lu dans tous les dossiers de patients. Donc, on a aussi fait plus de transmission orale aux équipes soignantes, donc les infirmières, les aides-soignantes, pour dire qu'on avait travaillé les loisirs avec monsieur machin, la prise du repas avec telle dame, parce qu'on se disait que bah, voilà, si les équipes nous identifiaient mieux, ça permettrait que l'ensemble de l'établissement voilà, ait une meilleure représentation du rôle de l'ergot. Et puis, parce qu'on était un petit peu dans cette idée d'opération coup de poing, on avait aussi pris des photos avec l'accord des résidents, bien sûr, lors des séances d'ergothérapie, où on était plus en individuel à travailler vraiment le quotidien. Et on a affiché ces photos-là dans les chambres pour que ça fasse aussi un support pour les familles de voir que, bah, y avait une prise en soins qui se passait. Et sur les photos, on les voyait en train de vraiment travailler le quotidien avec des grands sourires. Et donc, on s'était dit, peut-être qu'une image permettra d'échanger, peut-être que ça va interpeller et qu'on nous dira, mais qu'est-ce que tu fais avec telle patiente? Et en fait, c'est ça aussi le rôle de l'ergot. Bon, on n'a pas eu tant de retours sur ces transmissions par photo, puis c'était assez chronophage. Pareil pour les transmissions à l'oral, c'est chronophage hein, d'aller à tous les temps d'échange avec les différentes équipes et de trouver sa place, de pas trop s'imposer. Parfois, on avait aussi le sentiment que les équipes soignantes, elles manquaient également de temps dans leur journée et que du coup, entendre parler pendant 5 minutes des suivis de l'ergothérapeute, en fait, ça passait pas dans leur temps déjà réduit de transmission entre deux équipes.
Après, sur l'histoire des photos, je pense que vu qu'on va sur la numérisation un petit peu de la santé, tu vois, je vois bien dans 10 ans tous les soignants avec leur iPad et qui font les transmissions directes en prenant la photo et ça le met dans le logiciel. Et d'avoir les photos alors, dans les chambres, je trouve ça très chouette du coup pour le résident parce que ça ancre quelque chose et ça rappelle des choses aussi, que ce soit de la prise en charge ou d'un plaisir, d'une séance, etc., et pour les proches. Et si ça pouvait être en plus associé à une transmission écrite dans le logiciel, ça permet de mieux se représenter, comme tu disais, là, le fameux vocabulaire mise en situation, où moi aussi, je ne pensais pas que quelqu'un dans le champ de la santé pouvait ne pas se représenter ce que ça veut dire, mais en même temps, c'est vrai que c'est très large, mise en situation. Alors que pour moi, comme pour toi, c'est très clair. Et d'où l'importance du vocabulaire et de peut-être bien le préciser aussi. Et tu disais, pas mettre de vocabulaire spécifique. Il y a un peu une bataille, c'est entre les ergots. Est-ce qu'on met du vocabulaire technique? Est-ce qu'on n'en met pas? Moi, je me dis, tant qu'en fait, tu mets du vocabulaire où tu parles des activités de la vie quotidienne à un moment donné, parce qu'on a aussi du travail analytique, etc. Pour moi, après, que ton choix soit de vocabulaire technique ou pas technique, au moins si tu as les activités de la vie quotidienne, ça dit ton cœur de métier et ça aide en fait à ça. Et donc, vie affective et sexuelle que dont tu parlais, où le médecin est venu aussi t'interpeller, ça percute. Et en effet, je pense que plus les ergots vont sortir des repas, des toilettes, qui sont des activités de la vie courante importantes, mais plus ils vont aller sur d'autres types d'activités pour les résidents, avec le temps qu'ils ont évidemment, plus ça sera marquant pour les autres et plus ça sera remarqué. Donc la transmission écrite, pour moi, ça fait partie d'un autre biais, quoi, encore, où tu montres, comme tu disais, en fait, ton identité aux autres, quoi.
À l'UHR, donc c'est une unité d'hébergement renforcée avec des personnes qui ont des troubles cognitifs majeurs. On s'était rendu compte aussi, donc j'intervenais pas seule en tant qu'ergothérapeute, il y avait aussi l'APA et la psychomotricienne qui intervenaient avec moi, on était toujours à trois. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tellement de temps pour pouvoir échanger avec les familles et que les résidents n'étaient pas en capacité de pouvoir retranscrire ce qui s'était passé à leur famille. Donc pareil, on avait pris pas mal de photos pendant les séances et on les avait plastifiées et affichées sur sur le mur dans le couloir de l'UHR. Alors bon, parfois, il y a certaines affiches qui ont été déchirées ou grignotées un petit peu, mais ça a permis aussi un support d'échange avec l'entourage. Et puis, on a mis nos coordonnées. Et ça, c'est des choses dont les gens se sont vraiment saisis. Alors, je ne sais pas si ça a participé à la reconnaissance du rôle de l'ergot, mais en tout cas, ça a participé à ce que les familles puissent savoir ce qui se passait en rééducation en général. Et ça m'a semblé important.
Ça, je pense que tu as raison sur le fait finalement d'avoir tous ces supports d'échange pour représenter ton métier, parce que moi, j'ai l'impression que ce qui a, entre guillemets, le plus marché au-delà des transmissions, c'est quand les résidents avec lesquels j'intervenais parlaient à leur aide-soignant et leur infirmier de ce qu'ils faisaient en ergothérapie en ce moment, et ils en parlaient parce qu'on était sur une activité de la vie quotidienne qui était importante pour eux. Et souvent, quand on est venu m'interpeller, c'était quand j'accompagnais Madame B pour se maquiller, Madame D pour réécrire sur l'ordinateur, Madame C sur son autre loisir, et sur des trucs qui, eux, pour eux, changent par rapport à une routine qu'ils ont été pendant longtemps installée. Et pour moi, le résident, en tout cas, peut être un bon vecteur de communication pour que, comme ce que tu disais au début, c'est en fait, tu as besoin des autres pour que toi, tu saches qu'il y a des choses à faire. Et du coup, quand les aides-soignants apprenaient ça, ça leur faisait des fois écho, moi, à d'autres résidents. Et ça faisait un peu effet boule de neige. Donc, à ton avis, comment on pourrait inclure le résident dans cette communication de l'ergothérapie?
Je pense que ça dépend du public qui est accueilli parce que il y a certains EHPAD où on a des résidents qui ont quand même des troubles cognitifs qui sont très importants ou des troubles de la communication. Après, effectivement, donner un rôle aussi de communication à un résident, comme tu disais tout à l'heure, lors de portes ouvertes ou de semaines du métier, de proposer à des résidents de présenter ce qu'ils ont fait en ergothérapie, ça doit être super intéressant que le suivi soit en cours ou qu'il soit terminé. Je pense que ça peut carrément le valoriser de montrer tout ce qu'il a fait et bah, comme ça, ça montre aussi ce qui est possible de faire en ergo.
Ouais, de lui mettre une occasion plus formelle de présenter ce qu'il fait pour que ça soit plus concret encore pour les gens. Plutôt que de lui dire au quotidien, on parlait de moi à l'aide-soignante, où là, ça ne fait pas naturel du tout, quoi. Il faut que ça vienne du résident lui-même, quoi. Ouais, ça, c'est intéressant de proposer ça. Et ça me fait penser. Je me souviens, moi, à l'époque, dans un des EHPAD où j'étais, il y avait un journal avec chaque... Alors, je ne sais plus, c'était chaque mois, je crois. Chaque mois, il y avait un résident qui interviewait un soignant sur son métier, justement.
Ah, super intéressant.
Et du coup, dans l'autre sens, ça pourrait être chouette qu'un chaque mois, un résident raconte un accompagnement avec un soignant et que ça pourrait aussi faire écho aux autres et puis aux familles aussi. Ça peut être un autre moyen de diffuser la parole, quoi.
C'est vrai qu'une gazette comme ça peut être à destination des patients, des pros et de l'entourage.
Et c'est communautaire.
Exactement.
C'est communautaire. Il y a un point sur lequel j'aurais aimé qu'on revienne. C'est que tout au début, quand on a commencé à parler de toutes ces pistes et tout, tu m'as dit, ouais, on est un peu parti du principe que on ne connaissait pas forcément toutes nos compétences, toutes nos missions. Pourquoi, à ton avis, c'est difficile en tant qu'ergo ou peut-être en tant qu'autre professionnel de se faire identifier dans nos missions et en EHPAD plus particulièrement?
Je pense effectivement que ça ne concerne pas que les ergothérapeutes parce qu'avec ma collègue, quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire, il y a l'orthophoniste et la psychomotricienne qui ont dit bah, « en fait, c'est pareil, pour nous, c'est compliqué, nos missions ne sont pas reconnues ». Et donc, quand je parlais des petites flyers, là, il n'y avait pas que l'ergo, il y avait aussi la psychomote, l'APA et l'orthophoniste qui ont fait les mêmes types de flyers et pareil, on les a affichés dans le couloir. Alors peut-être que ça faisait trop en même temps, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Je pense que, en tout cas, dans l'établissement où j'étais, tous les professionnels manquaient de temps et de moyens à tout niveau, que ce soit l'équipe médicale, les autres éducateurs, les équipes soignantes. Et donc, je crois que dans notre pratique, c'est compliqué de de vraiment prendre le temps de se renseigner sur ce que l'autre fait et sur les conditions de travail de l'autre quand déjà on n'arrive pas à faire notre métier. Parce que là, par exemple, pendant toute cette opération communication avec ma collègue, on ne s'est pas trop renseigné sur comment est-ce que ça se passait les toilettes pour les infirmières, pour les aides-soignantes concrètement le matin, quel temps ils avaient pour faire ça, quel temps elles avaient pour réfléchir aux possibilités de prise en soin de chaque patient et pour faire leur transmission. Je crois que c'était ça un des freins principaux. Et puis après, il y a aussi des personnes qui sont ancrées dans leurs habitudes et l'ergothérapie, c'est aussi une profession qui change et qui est encore assez récente. Et il y a eu différents paradigmes de l'ergothérapie qui ont évolué. Je pense qu'il y a certains médecins qui sont restés peut-être ancrés sur l'association ergothérapeute matériel ou fauteuil roulant. Et faire changer les mentalités, faire changer les habitudes ou les choses qu'on a vues pendant la formation, bah, ça prend du temps.
Ça prend du temps, mais ouais, c'est vrai que tu as raison que on n'est pas les seuls professionnels concernés, c'est un peu tous les professionnels paramédicaux, je trouve. Même si notre profession, vu qu'elle est un peu plus jeune, qu'on est moins nombreux, qu'elle évolue vite, peut-être que ça peut être un peu plus majoré, mais ce côté où on n'a pas le temps de se préoccuper des autres parce qu'on a déjà du mal à se préoccuper de soi, c'est intéressant. Et du coup, ça amène une autre piste où tu disais, c'est difficile de faire venir les gens, c'est compliqué de prendre 5 minutes de transmission à chaque fois pour parler d'ergothérapie. En fait, tu grappilles du temps des autres. Comment on pourrait faire en tant qu'ergo pour montrer nos missions, faire notre travail d'ergothérapeute en sensibilisant les autres, mais dans le temps de eux leurs soins, tu vois, de s'intégrer dans leurs soins pour pas leur coûter du temps, mais qu'en même temps, peut-être sur de la collaboration pour qu'ils voient nos missions. Comment on pourrait faire?
Ou peut-être sur des temps de formation, que ce soit de la formation continue au sein de l'établissement. S'il y a des actions de formation sur les gestes et postures, par exemple, ça peut être le moment de repréciser certaines choses. Et sinon, quand j'étais en train de quitter mon poste à l'EHPAD, je m'étais dit qu'en fait, une solution, ce serait d'intervenir dès la formation initiale pour sensibiliser les autres professionnels à qu'est-ce que c'est que l'ergothérapeute, quand est-ce qu'on peut faire appel à lui. D'aller, par exemple, directement à l'école d'aide-soignante pour préciser bah voilà, qu'est-ce que c'est une mise en situation, pourquoi parfois l'ergo il vient pendant les toilettes, il donne des conseils, est-ce que c'est du jugement, est-ce que c'est des conseils pour améliorer les choses, enfin, voilà, retravailler sur ces différentes notions-là qui parfois peuvent poser souci dans la pratique.
Ça, c'est sûr que pour être formatrice en IFE, la formation initiale autour de l'interprofessionnalité qui représente que quelques heures d'enseignement en troisième année, même si elle s'est disséminée pardon, un peu partout, c'est un réel enjeu. Nous, on fait des mises en situation, justement, ergo-kiné en troisième année, et en fait, les kinés ne savent pas du tout ce qu'on peut faire, et quand on demande aux étudiants de simuler une évaluation en binôme, ils sont perdus sur les compétences de chacun, et moi-même, quand j'ai jamais travaillé de ma vie avec un psychomote, et j'ai appris un peu théoriquement ce que c'était, mais en sortant de l'école, je ne savais pas du tout quoi. Donc il y a un travail de fond à faire sur la connaissance des rôles et des missions de chacun. Et je pense que comme même s'il y a un socle général pour la profession, il y a quand même des spécificités en fonction des secteurs où tu travailles. Je pense que ça devrait être un rôle important de la direction, d'être entre guillemets en termes de démarche qualité, obligé de mettre en place des actions autour de, en fait, remettre à jour régulièrement cette connaissance, puisqu'il y a du turnover en EHPAD, on sait bien, que les pratiques évoluent, en fait, dans chaque métier, il n'y a pas que nous, et que ça devrait être intégré, je pense, dans cette démarche qualité, est une responsabilité de ta direction, et que ça repose pas sur tes épaules, comme tu disais, déjà, toi, t'as pas le temps. Il y a la culpabilité, enfin, il faudrait aussi, dans ce sens, on nous soutienne par rapport à ça, quoi.
Mais, et puis ça va dans les deux sens, les autres professionnels ne sont pas trop sensibilisés au rôle de l'ergothérapeute, mais de la même manière, il y a des missions et conditions de travail de nos collègues qu'on connaît très peu. Quand je suis arrivée à l'EHPAD, j'avais fait une évaluation de toilette et j'avais fait plein de préconisations, je les avais présentées aux équipes et on m'avait vraiment regardée en levant les yeux au ciel. Et je m'étais dit, bah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis présentée peut-être trop abruptement ou j'en sais rien. Et j'avais échangé avec une des aides-soignantes qui m'avait dit, bah, elle avait rigolé. Elle m'avait dit, oui, j'ai bien entendu tous tes conseils, je suis d'accord avec toi, mais viens demain avec moi à la toilette et on le fait dans les conditions que moi j'ai. Et je me suis dit, oh, bah, elle n'a peut-être pas trop de volonté, elle ne veut pas prendre le temps, elle est lassée de certains patients qui sont difficiles. Et en fait, non, j'étais arrivée le lendemain avec elle et elle m'avait dit, OK, donc là, j'ai bien vu tous tes conseils, mais moi, j'ai 12 minutes pour faire la toilette. En 12 minutes, il faut que la toilette soit faite et que le lit soit fait, parce qu'ensuite, j'ai plein d'autres chambres, ou alors il faut décider de qui on lave, qui on lave pas aujourd'hui. Et ensuite, effectivement, je m'étais rendu compte des conditions de son travail et de la pluralité de ses missions. Et je me suis dit, bah, en fait, mes préconisations, là, elles sont utopiques, c'est loin de la réalité. Mais je m'étais dit, bah, je m'étais pris un peu une claque, hein, ça te rend plus humble. Et tu te dis, en fait, je ne connais pas le métier de mes collègues et du coup, je passe complètement à côté.
Je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, je me suis pris un mur, deux murs, trois murs. Après, j'étais en mode, bah, je ne fais plus d'évaluation à la toilette. Et après, je me suis dit, bon, je réfléchis et... Et du coup, j'ai fait ce que ta collègue t'a proposé, c'est-à-dire que j'ai demandé est-ce que c'est possible d'être là pendant que vous accompagnez une personne à la toilette. Et c'est là où on parle d'évaluation de la co-occupation entre le résident et l'aide-soignant. C'est que chacun, ils doivent avoir la satisfaction dans leur occupation, que ce soit leur métier d'aide-soignant ou faire sa toilette en tant que résident. Et il faut négocier en fait entre ce que l'aide-soignant est capable de faire, ce qui est prioritaire pour le résident, et de ne pas avoir une solution parfaite, mais d'avoir une solution en tout cas réaliste dans le temps imparti, dans les contraintes. Et généralement, ça permet d'apaiser un peu le résident et ça permet de favoriser aussi l'engagement de l'aide-soignant. Et c'est un des moyens en fait d'intervenir quand la personne, le professionnel est en action, de ne pas lui grappiller du temps finalement et de montrer aussi nos compétences. Donc ça peut être un des moyens en tout cas pour l'aide-soignant. Il faudrait voir comment ce serait transposable avec d'autres professionnels, parce que l'aide-soignant, comme il intervient dans nos activités de la vie quotidienne, c'est plus facile d'être là en même temps que lui. Mais sur d'autres professions, ça serait intéressant de voir ce qui est possible, quoi.
C'est sûr.
Ça fait déjà pas mal de pistes. Avec le recul là, du fait que tu sois partie de l'EHPAD, que tu aies acquéri d'autres expériences, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait autrement pour mieux te faire identifier par les autres professionnels et mettre une pratique qui te satisfasse, ou des choses que tu aurais ajoutées éventuellement?
Bah, comme je disais tout à l'heure, je trouve que ça aurait été intéressant de solliciter en tout cas un peu plus la direction en leur expliquant clairement, peut-être même par écrit, le constat que nous on faisait qui était insatisfaisant, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait bien mis les bons mots là-dessus face à eux. Assez rapidement, on a demandé à un autre poste ergothérapique et on nous a dit non et on s'est un peu limité à ça. Alors que je pense qu'on aurait pu argumenter un peu plus qu'on ne se sentait pas reconnu et sous-sollicité. Et puis, je pense que si c'était à refaire, j'essaierais de m'appuyer plus sur d'autres ergothérapeutes qui travaillent en EHPAD. Déjà parce que, en tout cas, à mon niveau, je me mettais beaucoup de pression et j'avais un peu cette culpabilité de ne pas être la meilleure ergo pour les résidents et aussi de ne pas avoir réussi à mettre en place les conditions pour être une ergo moderne. Et parfois, je me disais, oh là là, si tes collègues de promo te voyaient en train de gérer le parc de fauteuils roulants et de faire de la mécanothérapie toute la journée, tu ne serais pas fière de toi, alors que c'est une pression que je me mettais toute seule. Et que voir que d'autres ergos que je juge très compétents, très impliqués, pouvaient rencontrer les mêmes difficultés, pouvaient rencontrer les mêmes freins et pouvaient aussi s'essouffler parfois, bah, ça m'aurait fait du bien. Et je pense qu'il y a de plus en plus de cafés des ergos en EHPAD, en gériatrie qui voient le jour, et que si ce n'est pas le cas dans sa région, il ne faut pas hésiter aussi peut-être à être la personne qui est source de propositions. Encore une fois, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Mais contacter les autres EHPAD aux alentours pour savoir s'il y a des ergos et si oui, leur dire bah, « moi, je suis en train de tirer la sonnette d'alarme, je suis en souffrance sur mon poste, est-ce que c'est aussi votre cas? Est-ce que vous avez des idées de pistes de solutions ?» Parce que là, on en a évoqué certaines, elles ont toutes un petit peu fonctionné, mais aucune n'a fait une révolution. Il y a sûrement encore plein d'idées de comment on peut faire avancer son EHPAD ou sa reconnaissance dans son institution. Et ouais, à mon sens, je ne me suis pas assez appuyée sur les autres professionnels qui étaient autour de moi.
Ça, c'est peut-être une question qu'on peut laisser en suspens pour les personnes qui vont nous écouter, voilà, qui puissent aider un peu la communauté des ergothérapeutes en EHPAD et nous donner voilà, quelles sont vos astuces, qu'est-ce qui a marché en tout cas pour vous, pour vous aider à faire une pratique qui vous convenait, pour qu'on vous puissiez être mieux identifié par les autres professionnels. Et quand vous êtes en difficulté, qu'est-ce que vous faites? Vers quoi, vers qui vous vous tournez et quelles sont un peu voilà, les aides extérieures, comme tu disais, qu'on peut avoir. Moi, j'avais déjà mis, je crois, sur un de mes épisodes de podcast, j'ai découvert l'association Tadéo. C'est écoute pour les soignants qui sont en difficulté sur une écoute plutôt psychologique, mais après sur une écoute plus professionnelle pour en fait avancer dans ses réflexions, puisqu'on est souvent seul en EHPAD. Après, je pense qu'il y a les groupes Facebook, il y a la communauté
Outils Explorer aussi.
Ouais, voilà, la communauté Outils Explorer. On pourra mettre les liens là, des différentes choses. Mais ça serait chouette que tout le monde nous partage là ces petites idées, qu'on se fasse un petit référentiel de, comme ce qu'on a dit, ce qui se lit, ce qui se voit, ce qui s'entend, pour un peu avoir plein d'astuces pour colorer notre quotidien, en fait, d'actions qui nous représentent, qui permettent de mieux nous identifier. Dernière question. Selon toi, qu'est-ce qui doit changer en EHPAD pour qu'on puisse mettre en place une pratique ergo qui soit efficace et qui corresponde à notre métier, si on part dans l'idéal?
Dans l'idéal, moi, je dirais qu'il faut revoir les effectifs par rapport au nombre de patients. Et je trouve que ce serait bien d'avoir peut-être des textes officiels qui indiquent, voilà, pour tant de patients en EHPAD avec tel niveau de GIR, par exemple, et ben il faut un temps plein d'ergo pour donner des repères un peu aux institutions. Parce que parfois, on entend des choses qui nous semblent aberrantes. Alors, peut-être que pour la direction, ça l'est pas, mais je sais que nous, on nous a déjà dit, mais 310 patients, c'est facile, vous devriez pouvoir tous les rencontrer et tous les connaître. Et pour nous, ça nous semblait... Pour nous, ça a été un coup dur d'entendre cette phrase-là et... On avait cherché, et à l'époque en tout cas, on n'avait pas trouvé de document officiel de l'ARS ou de l'HAS ou quoi, qui conseille sur un nombre d'ergo par rapport à un nombre de résidents.
Oui, alors ça, pour avoir fait ma recherche de master sur les EHPAD, ça... en tout cas, moi j'ai essayé d'éplucher le maximum, ça n'existe pas. Et c'est vrai que c'est un vrai problème parce que dans les chiffres que j'avais vus, moi, il y avait moins de 7 heures d'ergothérapie pour 100 résidents en EHPAD. Ça veut dire que, comme je disais, c'est... Tu arrives. Ouais, donc en fait, tu arrives, c'est comme si tu démarres ta journée à 9h, tu as 100 résidents devant toi, tu dois t'en occuper et à 17h, tu pars. Donc je dis toujours joyeux Hunger Game, bon courage.
Et puis il faut travailler avec les équipes et puis il faut faire des plans de transmission. Et...
Le nombre d'ergos qui te dit j'ai pas le temps de faire de mise en situation. J'ai pas le temps de faire une évaluation de tous les résidents à l'entrée. Et donc, en fait, c'est là où tu te retrouves à faire ce qu'on disait, l'ergothérapie un peu de l'urgence, à livrer du matériel, à livrer du positionnement et à faire ce que tu peux, en fait. C'est pas que tu fais pas de la bonne ergothérapie, c'est que tu peux pas... Tu fais à l'urgence.
Et du coup, ça peut te coûter aussi émotionnellement. Et je pense que c'est aussi dans ce genre de conditions que tu te retrouves avec des ergothérapeutes qui peuvent être en burn-out ou qui, comme moi, quittent leur poste parce qu'ils sentent qu'il va falloir se prioriser soi et arrêter de courir d'une chambre à l'autre en livrant du matériel.
Et de toute façon, le burn-out, que ce soit des ergothérapeutes ou des soignants, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'on ne nous permet pas du tout d'accompagner les gens tels qu'on nous a appris à les accompagner, parce que encore si on nous mettait face à la réalité de voilà, vous allez faire ça et finalement pas besoin d'acquérir toutes ces compétences là hein. Mais là on nous dit voilà qu'est-ce que vous pouvez faire et après on vous dit non, en fait tu ne vas pouvoir faire que ça dans la réalité des choses. Donc ça c'est et pourtant on a été en stage, mais on se le représente pas tant qu'on n'y est pas confronté, je pense. Bon, en tout cas, merci Charline. Je ne sais pas si tu as un dernier mot de la fin que tu voudrais ajouter sur qu'est-ce que tu voudrais que les personnes qui nous écoutent retiennent de ce podcast.
Je dirais qu'il y a plein de solutions différentes pour essayer de se faire reconnaître en tant qu'ergo et développer son champ d'action. Maintenant, il ne faut pas endosser tout seul cette responsabilité-là. Ça s'inscrit aussi dans un contexte institutionnel et avec différents professionnels qui gravitent autour de nous. Et Là, moi, j'étais pas sûre d'être légitime de pouvoir réaliser cet épisode parce que oui, j'ai essayé de mettre en place plein d'actions et que j'avais vraiment cet objectif de faire évoluer l'ergothérapie dans mon établissement. Mais j'ai quand même fini par partir parce que j'estimais que malgré tous mes efforts, l'objectif n'était pas atteint et que j'en souffrais au travail. Et je pense qu'à l'époque, ça m'aurait peut-être fait du bien d'entendre une autre ergot dire la même chose en podcast et de me dire, bon, il n'y a pas que moi, je suis pas la pire ergot de France qui est nulle et qui n'arrive pas à se décrocher des fauteuils.
Oui, et puis je pense qu'une autre ergo avec les mêmes actions, mais tu vois, avec une direction peut-être différente, moins de résidents, et ben ça se trouve, ça aurait marché. Donc en fait, ça vient pas forcément de nous en tant qu'ergo par rapport à ce qu'on met en place, mais souvent, il y a aussi des facteurs vraiment extérieurs sur lesquels on n'a pas la main mise, quoi.
Puis après, il ne faut pas être défaitiste, on peut aussi influencer sur des choses en prenant peut-être un peu plus de temps que ce qu'on voudrait, mais petit à petit, on peut mettre quand même des choses en place. Et dans l'établissement, par exemple, on a réussi à mettre en place de l'ergothérapie communautaire avec des groupes et des suivis individuels, et c'est déjà énorme.
C'est énorme, ça c'est sûr. Le suivi individuel en EHPAD, c'est pas si souvent quoi.
C'est
Bon
sûr.
bah super. Bah merci beaucoup pour ces échanges et puis bah peut-être à une prochaine fois alors.
Merci à toi.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois avec une nouvelle thématique et un nouvel invité. À la prochaine.